La Voix de l'Amérique vous propose maintenant un dossier spécial sur la République centrafricaine.
Ici Chérubin Dorsil et Morgane Guériec dans ce segment spécial sur la Centrafrique.
En Centrafrique, la force Sangaré s'assure que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée à Bangui. Le général Francisco Soriano, commandant des forces françaises, reconnaît par ailleurs qu'une mission de maintien de la paix de l'ONU est d'une importance capitale. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, le général français a fait cette mise au point aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Pour le commandant des forces françaises, la crise en Centrafrique est d'une très grande complexité. L'État n'existe pas, absence de ressources, crise humanitaire réelle, souffrance des populations et prolifération d'armement. Même si la sécurité tend à revenir dans la capitale, une mission de maintien de la paix de l'ONU est urgente, reconnaît Francisco Soriano.
Sangaris, comme la MISCA, ont répondu tout de suite dans l'urgence. Maintenant, au fur et à mesure qu'on consolide, on se déploie pour pouvoir amener la sécurité. Maintenant, je pense qu'une opération de maintien de la paix est absolument nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus loin.
Alors qu'un semblant de calme règne à Bangui, de nouvelles violences sont signalées dans le nord du pays. Au moins une dizaine de civils, dont une femme de 72 ans, ont été tués par des rebelles de Babalade au village de Koki, un marché hebdomadaire situé à 60 km de Markunda.
Par ailleurs, un membre de la Commission internationale d'enquête de l'ONU a rebroussé chemin un jour seulement après l'arrivée de la délégation dans la capitale centrafricaine. Selon une source proche du bureau local des Nations Unies, le Mexicain Jorge Castañeda est rentré pour des raisons personnelles.
Toujours concernant la République centrafricaine, trois hauts responsables européens effectuent une visite conjointe dans le pays aujourd'hui et demain. Il s'agit du commissaire européen au développement Andris Piebalgs, du ministre français du Développement Pascal Canfin et du ministre allemand de la Coopération Gerd Müller. À cette occasion, le commissaire européen annonce une nouvelle aide à la RCA de montant de 81 millions d'euros pour des programmes d'éducation, de santé et de nutrition.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
C'est avec beaucoup d'inquiétude que les Centrafricains des États-Unis suivent la situation dans leur pays. Pour faire le point, Timothée Dunangmai a joint un membre de cette communauté, Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports, une ONG de promotion de l'éducation à travers le sport.
Les Centrafricains qui vivent ici aux États-Unis viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Et je pense que ça fait un très bon mélange cosmopolite. Mais nous nous retrouvons spécialement dans la région de Washington et New York, même si quelques-uns vivent dans le Midwest, c'est-à-dire dans l'État d'Ohio, de Michigan et quelques-uns en Californie, de même qu'en Caroline du Nord ou en Floride.
Comment ces Centrafricains vivent-ils la crise dans leur pays?
Écoutez, on la vit avec beaucoup d'émoi, parce qu'on a quand même des parents qui sont là-bas. C'est une crise qui est très très grave, qui a causé la perte de vie de beaucoup de gens. Et individuellement, je pense que chacun dans sa famille vit avec une certaine crainte. Collectivement, on est très attristé parce que le pays a été complètement détruit et que ça va demander beaucoup d'efforts pour le reconstruire. Mais sinon, de notre côté, on essaie ici, d'une certaine manière, à faire des petites œuvres humanitaires et un peu d'activisme pour amener les décideurs à prendre les meilleures décisions pour nous permettre de sortir de cette crise.
On sait que cette crise divise beaucoup de Centrafricains au pays. Qu'en est-il? Comment les gens ici la perçoivent-ils?
Mais écoutez, là, ici, on l'aperçoit différemment parce que bon, l'environnement nous permet de le faire. Je pense qu'en Centrafrique, malheureusement, les violences ont été telles que beaucoup d'amalgames se sont passées. Et aveuglement, les gens, la vengeance a grandi dans le cœur des gens. Par contre, ici, on est plus au-dessus de la situation et on a quand même le sang-froid pour avoir un meilleur jugement. Donc, nous vivons ensemble, toutes les communautés, et nous essayons de nous encourager, nous essayons d'encourager ceux qui sont au pays, chacun de son côté, pour justement éviter qu'ils ne s'adonnent à des actes de vengeance qui pourraient entraîner une déchirure définitive entre nos populations.
Vous avez parlé de quelques initiatives en faveur de ceux qui souffrent au pays, et parlez-nous-en.
Oui, on a essayé de faire des collectes afin de pouvoir aider, par exemple, la Croix-Rouge qui avait des besoins de sang. Donc, cette collecte a pu être faite par l'ensemble des centres africains vivant aux États-Unis. Mais aussi, nous essayons de toucher, que ce soit la Maison Blanche, le Congrès, le Sénat, les Nations Unies, afin de leur faire comprendre l'importance d'intervenir, de nous aider, quoi du moins, à pouvoir régler cette crise, car tout seul, nous ne pourrons pas le faire. Quoi.
Les leaders religieux centrafricains, tous bords confondus, effectuent régulièrement des visites ici aux États-Unis. Tout d'abord, quelle est selon vous l'importance de ces visites?
Écoutez, là, actuellement, d'ailleurs, ils se trouvent à New York et ils seront pendant le week-end ici à Washington. Il est très important que ces hommes de Dieu puissent, par leur exemple, montrer qu'il ne sert à rien de se battre vers le sang de votre prochain, mais surtout être instrumentalisé justement par des politiques souvent qui ont leurs ambitions personnelles. Je pense qu'en allant avec leur bâton de pèlerin, j'essaie de non seulement d'expliquer la situation et de convaincre les autorités mondiales, dont celles des États-Unis et des Nations Unies, pour que justement cette aide importante des troupes, par exemple, soit acheminée en Centrafrique le plus rapidement possible afin d'arrêter cette hémorragie.
Et lorsqu'ils viennent, est-ce que la communauté a l'occasion de les rencontrer et de discuter avec eux?
Oui, généralement, nous avons la possibilité. La dernière fois qu'ils étaient venus, nous les avions rencontrés pour ceux qui étaient à Washington lors des conférences où ils étaient. Et cette fois-ci encore, ça va se passer. On va probablement organiser quelque chose où tout le monde pourra peut-être leur poser des questions et échanger avec eux afin de leur donner peut-être des idées pour toucher des autorités des autres pays et des organisations internationales.
Qu'est-ce qui permettra, selon vous, aux Centrafricains de tourner la page et de revivre cette convivialité qu'on leur a connue par le passé?
Ben, je pense que la République africaine est tombée dans cette tragédie, c'est dû au fait de l'impunité. Je pense que la fin de l'impunité sera l'une des premières solutions à cette crise. Je pense qu'il y a des responsables, que ce soit du côté de la SELECA et du côté des anti-Balaka. Il faudrait que des mesures soient prises afin justement d'enrayer une fois pour toutes cette violence qui est pilotée par des hommes sans scrupules et qui malheureusement sacrifie nos populations.
Eugène Pewa-Pelema, président d'Africa Education Sports, une ONG de promotion de l'éducation à travers le sport, basée à Gaithersburg, dans l'État américain du Maryland. Voilà, c'est tout pour cette fenêtre sur la Centrafrique ce soir. Ici, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec, dans ce segment spécial sur la Centrafrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les terroristes ont lancé une autre attaque suicide meurtrière contre le gouvernement de la Somalie à Mogadiscio, causant la mort de 17 personnes à l'heure de la prière du vendredi à la résidence présidentielle. Les assaillants ont fait usage d'un véhicule piégé pour démolir une grille et des barrières de sécurité de la ville à Somalie, complexe de bureaux et de résidences du gouvernement. Ils ont attaqué à l'intérieur une mosquée bondée de fidèles. Une fusillade s'en est suivie avec les forces de sécurité, faisant des victimes des deux côtés. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, principale cible des assaillants, n'a pas été blessé, mais deux responsables gouvernementaux ont été tués et plusieurs autres blessés. Les attaques menées par Al-Shabaab, souvent contre des civils, sont devenues monnaie courante depuis que ce groupe terroriste a été chassé de Mogadiscio il y a plus d'un an par les forces gouvernementales, appuyées par les troupes de l'Union africaine. Se présentant comme une force pour la réforme en Somalie, le groupe terroriste s'illustre par le chaos et la destruction. Les États-Unis condamnent fermement l'attaque contre la ville à Somalie et présentent leurs plus sincères condoléances aux familles et proches des personnes tuées dans l'assaut. Cette attaque meurtrière contre le nouveau gouvernement somalien visait les individus et les organisations travaillant pour fournir au peuple somalien la gouvernance, la stabilité et un meilleur mode de vie. Les États-Unis continueront à soutenir le peuple somalien et son gouvernement alors qu'ils reconstruisent leur pays. Ce qui bloque la voie du progrès de la Somalie, ne réussiront pas.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.